Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 32 de ITcast du 24 juin 2016. Un programme spécial aujourd'hui puisque nous vous proposons avec Stanislas un résumé des deux keynotes de la conférence DockerCon 2016 qui avait lieu en début de semaine à Seattle. Mais avant cela, je vous dirai quelques mots de mes dernières expériences avec les builds Insider de Windows 10, notamment sur Bash et les conteneurs Windows. Tout de suite, on retrouve Stanislas pour un épisode spécial Docker. Je suis de nouveau avec Stanislas en ce vendredi caniculaire à Paris. Salut Stanislas.
Bonjour Pascal.
Ça va bien ?
Écoute, très bien, à part la chaleur.
Voilà. D'ailleurs, il faut avouer, hein, on est jeudi, mais c'est tout comme puisqu'on diffusera vendredi.
Mais il fait chaud quand même.
Voilà, il fait très chaud. Et donc, on va vous parler aujourd'hui de deux choses, hein, Stanislas. Il y a eu une grosse actualité, pas directement Microsoft cette semaine, il faut l'avouer, mais qui concerne Docker, avec la DockerCon, donc la conférence Docker qui avait lieu cette année à Seattle.
Exactement.
Donc pas mal d'annonces qui nous intéressent plus ou moins directement, mais qui nous intéressent de toute façon. Et puis je vais commencer par des petits détails sur Windows 10, puisqu'il y a eu une avalanche de builds la semaine dernière sur Windows 10 avec quelques petits trucs intéressants à en dire. Voilà. Donc si tu es d'accord, Stan, directement Windows 10.
Exactement, donc beaucoup de build insider. Est-ce que tu peux nous écrire un petit peu les améliorations ou les changements que tu as pu constater sur ces différentes build insider qui sont tombées de manière assez régulière ces derniers temps?
Voilà, alors je vais me concentrer sur deux choses en fait, deux choses qui ne sont pas extrêmement nouvelles parmi ce qu'on avait déjà raconté. C'est que la première, ça concerne Bash sur Ubuntu sur Windows 10, donc le shell Bash directement dans Windows 10. Donc la question n'est pas qu'il est présent, puisqu'il était déjà présent dans la build précédente. Par contre, son architecture a un petit peu changé, enfin son principe a un petit peu changé dans les dernières builds, ce qui fait que quand on suit les upgrades régulièrement de nos machines Insider, ben y a un moment où paf, il y a des choses qui ne marchaient plus. Mais alors plus du tout, quoi. J'avais des trucs, j'avais des bonnes démos bien faites avec... avec Ruby, etc., qui marchait très bien. Et puis là, il n'y avait plus rien qui marchait. En plus, j'ai essayé d'installer par-dessus Azure Cli dans mon pauvre Bash, là, et puis impossible de le faire marcher. Et donc, en fait, j'ai cherché un petit peu, comment j'ai fait marcher le truc finalement, c'est en désinstallant tout et en réinstallant la fonctionnalité. Alors, pour tout désinstaller, c'est un petit peu subtil, puisqu'il faut faire ça un petit peu à la main, hein, quand on va désinstaller simplement la fonctionnalité dans l'interface graphique, dans les fonctionnalités optionnelles de Windows, ça désinstalle pas tout. Donc il faut en plus de ça, il faut aller dans le profil de l'utilisateur, dans le chemin qui s'appelle... ça s'appelle Windows Subsystem for Linux, donc ça s'appelle WSL... je mettrai le chemin complet dans l'article associé, mais c'est dans le profil de l'utilisateur. Il faut aller supprimer tout ça. Donc faut pas hésiter, quoi, faut supprimer violemment tout ce répertoire là, mais ça ne suffit pas encore. Donc il y a encore une clé de registre que je mettrai également dans l'article à aller trouver dans le registre à supprimer ou à passer à zéro pour dire que c'est plus installé. Moi je l'ai carrément supprimé, hein, j'ai pas pris de gants. Et une fois qu'on a fait ça, on peut réinstaller le tout et refaire toute la procédure, quoi. Et là ça remarche. Et quand ça remarche, on se rend compte que les choses ont bien changé depuis les premières builds où on avait Bash dans Windows. En l'occurrence, la première chose qui frappe, c'est qu'on n'est plus root. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, Stan, quand on lançait au début...
On se souvient parfaitement, oui.
Voilà, on avait un dièse et on était root. Root dans le sous-système, hein, on ne devient pas magiquement administrateur de Windows. Hein. Uh-huh. Mais on était root à l'intérieur du sous-système. Donc là, ce n'est plus le cas. On a notre identité avec le même nom. Je crois d'ailleurs qu'on donne un nom. Ouais, on donne un nom et un mot de passe pour notre identité Bash, et qui n'est pas root dans le sous-système Linux. Donc voilà. Alors ensuite, on peut faire des sudo, hein, on a le droit sudoers, donc on peut faire des sudo. comme on fait sous Ubuntu, classiquement, hein, quand on va faire un apt-get update et upgrade, etc., on fait un sudo pour que ça fonctionne. Donc première chose, et ensuite à partir de ça, bah, j'ai pu réinstaller mes démos, et notamment installer Azure CLI. Donc avec la procédure standard d'install de Azure CLI sur Ubuntu, c'est-à-dire on installe le Node.js Legacy, NPM, et ensuite on fait le NPM install le -g, si je me souviens bien, Azure CLI, et paf, ça marche. Malgré quelques petits warnings qui disent « attention, t'as pas la dernière version de Node.js », tout ça, peu importe, ça marche quand même impeccablement bien.
Rappelons aussi que toi-même, tu es un petit peu en mode aussi expérimental, dans le sens où Azure CLI, par définition, étant notre administration d'Azure en ligne de commande, elle est déjà en fait cross-platform, c'est-à-dire qu'il y en a une version pour Windows, une pour Mac OS, et puis une pour Linux. Donc là, tu as utilisé celle de Linux, en fait, au sein de Ubuntu sur Windows, avec le bash.
Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a plein de façons d'exécuter Azure CLI sur Windows, tu as raison, hein. C'est ça qui est génial, quoi. Il y a cette façon-là qui est un petit peu tordue déjà. Il y a la version native avec Node.js sur Windows, mais il y a également une version container.
Exactement, une version Docker. Hein. Mais version ça, Docker. On va reparler de Docker tout à l'heure, donc ne voilà. Brûlons pas trop les sujets.
Donc, à propos justement de containers, dans Windows 10, donc sont apparus il y a quelques builds, c'était avec la 352, je crois, la 14352. Sachant qu'aujourd'hui on est à la 14.367, donc ça va assez vite hein, au niveau des builds. Donc sont apparus les fameux containers sous Windows 10. Donc on en a déjà parlé, donc rapidement, on a parlé l'autre fois quand on était avec nos amis d'AOS d'ailleurs. Il y a les containers Windows et les containers Hyper-V. Dans Windows 10, ce sont les containers Hyper-V. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'une plus grande isolation de virtualisation pour exécuter un noyau Windows Server. Dans Windows 10, Windows Server Nano en l'occurrence. Donc voilà, on peut maintenant le tester complètement avec l'interface Docker. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, on peut remarquer dans cette build, donc j'ai eu l'occasion de voir ça avec la 14.367, c'est qu'on a, j'ai déjà dit hein, que le mode d'interfaçage de PowerShell sur les containers serait différent dans l'avenir. Il ne serait plus nativement l'interface native par défaut des containers, mais ça serait quelque chose qu'on rajouterait par-dessus Docker. Et quand on regarde aujourd'hui, quand on installe les containers sur Windows 10, on se rend compte qu'on a Docker, certes, nativement, et que l'interface PowerShell est très limitée. On a en fait juste ce qu'il faut pour installer les images de base de Windows Server. D'accord ? On n'a pas toutes les manips de containers d'images, les start, stop, etc., etc. Donc je suppose que on est déjà dans le nouveau mode et que l'interface complète de PowerShell sur Docker viendra bientôt et que c'est en cours de développement. Voilà ce que je voulais dire sur Windows 10, sur l'état de mes analyses sur Windows 10 aujourd'hui.
D'accord, donc rappelons effectivement hein, que tu étais sur des builds insider en mode développeur. Hein, il y a plusieurs modes dans Windows 10 au niveau des mises à jour. Mm-hmm. Et que donc c'est par définition un mode un peu expérimental, hein,
en mode fast.
En mode preview, donc ça explique effectivement les petits problèmes que tu as eus hein, en usage normal. Le but est bien entendu de ne pas les avoir, mais là on est plus sur des phases d'essai et de découverte hein, et de preview.
Exactement.
Donc maintenant on va basculer sur la partie qui nous a bien amusé cette semaine, ou bien intéressé, qui est la DockerCon. Qui est donc la conférence annuelle de Docker, hein, qui fait sa 3e édition, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement, 4000 personnes cette année.
Ouais, 4000 personnes cette année, versus, je crois, c'était 500 là, sur la première édition. Hein. Et un écosystème assez important, qui se voyait d'ailleurs au niveau typiquement du slide des sponsors. Alors pourquoi Seattle Je pense que la présence d'un sponsor Diamond, qui est le seul sponsor Diamond et qui est Microsoft, n'y est pas pour rien.
Ouais, je pense, ouais.
Au-delà du fait qu'effectivement, à Seattle, on a également Amazon, mais je pense que le choix de la ville ici était un petit peu lié également au sponsor principal.
Oui, et puis il y a une belle salle, un bel endroit pour faire des conférences où il y a 4000 où faire rentrer 4000 personnes, quoi, également.
Donc voilà, donc ça a changé un petit peu des endroits comme San Francisco, c'était plutôt cool, même si nous on connaît plutôt bien. Et donc il y a eu plusieurs keynotes sur cette Docker conférence, qui s'étale, je crois, sur 4 jours.
Je crois que c'était 3 jours, je crois. Crois que ça a commencé, dimanche.
D'accord.
La première vraie keynote a eu lieu lundi, et puis la deuxième mardi, avec une conférence de clôture, un petit peu, qui est une tradition maintenant, une conférence de clôture qui avait lieu un petit peu tard pour nous, c'était dans la nuit, genre à 2h du matin, sur ce qu'ils appellent les cool hacks, donc des démonstrations des démonstrations techniques à base de Docker.
D'accord. Donc, finalement, on va se faire un petit tour sur tout ce qui s'est raconté durant ces keynotes. Il y a eu pas mal de choses, à la fois des choses qui sont très, par définition, orientées développeurs ou orientées DevOps. Hein. On va dire plutôt que c'est orienté DevOps, hein, parce qu'on s'aperçoit que Docker, en fait, c'est en train quand même de bien grossir au niveau de la plateforme et des produits qu'ils ont à fournir. C'est pas juste une solution Docker, c'est tout un ensemble de briques maintenant. C'est d'ailleurs assez impressionnant, hein. Je crois qu'ils ont annoncé le nombre de personnes qu'ils avaient d'employés, hein, hors des gens qui contribuent entre guillemets au projet Docker en open source. J'ai cru comprendre qu'ils étaient 250, ce qui du coup est assez simplement impressionnant vu le boulot fait par le nombre de personnes et toutes les améliorations et les changements qu'il y a pu y avoir. Depuis quelques années, hein, c'est quoi, 3 ans qu'elle existe, hein,
Ça fait 4 ans. Exactement 3 ans.
Voilà.
Ou 3 ans, 3 ans et demi maximum,
ouais.
Ouais. 2013. Hein.
Donc oui, vraiment, on peut dire que c'est sacrément impressionnant. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on va un petit peu balayer tout ce qui a pu être raconté durant cette plénière, et puis on rentrera un petit peu le détail, parce qu'on a lu un petit peu quand même de documentation post keynote, bien entendu, et puis on essaie de jouer un petit peu avec une certaine limitation dont on va parler juste après.
Donc la première keynote donc du premier jour, c'est en gros c'est là où il y a le plus d'annonces intéressantes. Hein. Qui était en 3 parties bien claires. Elle était présentée par Ben Golub, le CEO, donc le patron de Docker, accompagné par moment de Solomon Hikes, le fondateur, un des fondateurs, hein, je veux pas dire.
Oui, ils sont deux fondateurs, je crois.
Voilà. Et puis des personnes qui venaient faire des démonstrations ad hoc. Donc le premier thème, Stan, c'est un thème plutôt développeur. Le deuxième, c'est un thème sur l'orchestration, donc comment on orchestre la création,
ouais.
les clusters de containers, etc. Et puis le troisième thème, c'était un thème
les opérations, si je ne dis pas de bêtises. Les ops, ouais. Donc voilà. Écoute, je te propose, on va se prendre chacun des sujets, et puis doucement se les regarder. Alors, sur les news.
Ouais. Alors le premier... intitulé Developer Experience, donc l'expérience du développeur. En gros, ce premier thème parle de quelque chose qu'on a déjà abordé, hein, qui est la version cliente de Docker. Comment on travaille, comment on fournit aux développeurs des outils Docker, des outils de travail simples à utiliser, pratiques, etc., sur son poste de travail. Son poste de travail qui n'est pas forcément un Linux, mais qui est rarement un Linux d'ailleurs, hein, il faut l'avouer. Et c'est souvent soit un Mac pour les développeurs web, etc., soit un Windows pour aussi les développeurs web, etc. Et donc ils ont sorti récemment, il y a quelques mois, d'ailleurs il avait annoncé, je crois, je sais plus s'il avait annoncé à Barcelone ou si c'était après, deux produits qui s'appellent Docker for Mac et Docker for Windows, qui incluent tous les outils qui vont bien pour faire du Docker sur notre poste client. Et comment on fait du Docker sur un poste client quand on a un Mac et qui n'a pas un noyau Linux, par exemple ? Eh bien, c'est en installant une machine virtuelle sur Linux, sur le Mac.
Donc sur Windows, c'est pareil, il y a des choses compliquées à faire. En fait, ce que Solomon Hikes explique dans sa keynote, c'est que pour lui, en fait, pour améliorer l'expérience d'un développeur, il dit que les meilleurs outils, en fait, ils doivent déjà s'adapter à l'utilisateur. Ils doivent être puissants et rendre ce qui est puissant simple.
Oui.
Et puis être régulièrement disponible. Alors, je ne sais plus comment on peut traduire le get out of the way.
Get out of the way, c'est qu'il doit se faire oublier, en fait.
Exactement. Donc, on va dire
c'est vrai que
ça peut être puissant, simple à installer, simple à utiliser. Et même si derrière le moteur et toute la mécanique est compliquée.
Et je dois dire que par rapport à la solution précédente qui était Docker Toolbox, Docker Machine, etc., à base de VirtualBox, pour héberger cette fameuse VM Linux, c'était un petit peu visible sur VirtualBox. Là, ils ont fait vraiment un beau boulot d'intégration, et c'est vrai que tout l'aspect Virtual Machine, tout ça, on le voit pas. Si on le sait pas, vraiment on le voit pas. Que ce soit sur Mac avec la techno de virtualisation intégrée qui s'appelle X-Hive, ou sur Windows où ils utilisent la virtualisation native, Hyper-V, hein. Dans les deux cas, on ne voit pas et ça se passe vraiment de façon transparente.
Donc, si ils avaient annoncé, effectivement, il y avait déjà eu une bêta en fait, de Docker for Mac, qui avait été testée par, accroche-toi bien, quand même, 70 000 bêta-testeurs. Mm. Et en fait, même malgré ces 70 000, ça restait une bêta privée.
Ouais.
Donc qui était limité, hein. Et donc là effectivement ils ont annoncé.
Et Docker for Windows aussi, hein. Les deux étaient en bêta.
Oui, pardon, excuse-moi.
En bêta privé. Moi j'avais eu la chance d'être parmi les 70 000, et donc j'avais pu tester sur les deux environnements, Mac et Windows.
Et donc ce que Solomon Hayes a annoncé dans cette première keynote, c'était la disponibilité toujours en bêta, mais cette fois-ci publique, de Docker for Mac et Docker for Windows.
Voilà, donc bêta ouverte pour tout le monde. Magnifique. Il suffit d'aller sur docker.com, sur la page d'accueil. Hein. On descend un peu, et puis il y a deux gros boutons, télécharger Docker for Mac ou télécharger Docker for Windows. Et ça s'installe, et paf, il n'y a pas de questions à se poser. C'est super bien intégré. Ils ont fait un gros boulot. Ils ont bossé avec des designers, c'est-à-dire qu'ils ont bossé avec les gens, qu'ils ont racheté récemment, hein, Unikernels. Et avec des designers, donc pour avoir quelque chose d'un petit peu graphique, un petit peu joli sur le poste de l'utilisateur. C'est vrai qu'ils avaient un background plutôt serveur, donc plutôt ligne de commande, etc. Donc là, il fallait faire un effort de design. Ça a été fait. C'est simple, c'est de bon goût. Rien à dire. Rien à dire. Sauf la seule chose que je dirais, c'est que sur un Windows, sur un PC qui fait, je sais plus combien j'ai de giga de RAM sur ma Surface, je dois avoir 4 gigas. La taille par défaut qui est de 2 gigas sur la machine virtuelle ne passe pas au début, donc il faut aller descendre la taille de la machine virtuelle sur un PC de 4 gigas, donc la baisser par exemple à 1 giga, puis après ça passe très bien, mais c'est bien fait quoi. C'est dans les paramètres de Docker, on va régler la taille de la machine virtuelle et ça va automatiquement derrière paramétrer la VM dans Hyper-V.
Ok. Mmh. Eh bien, écoute, c'est donc premier point, effectivement, donc les outils pour les développeurs, pour améliorer leur expérience. Deuxième gros bloc de cette première keynote de la DockerCon 2016, eh bien, toute la partie orchestration. Et là, le message était assez simple. Il disait tout ce que vous avez besoin, l'idée c'est qu'on vous fournisse Docker tout ce dont vous avez besoin pour aller et transformer finalement un simple déploiement, c'est-à-dire un déploiement qui peut être sur une monomachine par exemple, jusqu'à un déploiement dédié à de la production qui sera potentiellement sur plusieurs providers cloud, qui sera tolérant à la panne, qui sera sécurisé, etc. etc. Alors l'orchestration chez Docker, c'est pas réellement neuf, Pascal.
Oui, ça existait avec Docker Swarm.
Donc Docker Swarm, ma connaissance est sortie de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Docker Swarm, effectivement, permettait de créer des clusters de serveurs Docker. Clusters qui étaient pilotés, donc qui se divisaient finalement en deux parties. D'un côté, on avait les masters, c'est-à-dire ceux qui géraient le cluster, son état, la ventilation des containers sur les différents Docker machines, etc. Et puis, il y avait de l'autre côté, les serveurs exécutant les containers avec les applications à l'intérieur, qui, eux, effectivement, étaient pilotés par les maîtres et donc pouvaient augmenter en fonction de la besoin. Donc, Docker Swarm, ils sont arrivés finalement dans un espace-temps où d'autres solutions d'orchestration existent dans le monde des containers. Elles sont relativement multiples, hein, mais aujourd'hui, celle qui ressort, alors, les chiffres proviennent d'une étude récente sur l'utilisation des containers par les DevOps, etc. Aujourd'hui, le système d'orchestration numéro un, donc il y a eu une enquête auprès des différentes populations, et sur les répondants en fait à cette enquête, ils ont dit que leur système d'orchestration numéro un était Kubernetes. Kubernetes qui est utilisé bah, notamment, enfin qui est à l'origine, enfin qui est l'idée par Google, on va dire.
D'accord.
Kubernetes qu'on retrouve dans des plateformes telles que OpenShift par exemple. Mmh. Et donc ça, Kubernetes, a priori, ce serait le plus utilisé. Ensuite, il y a tout ce qui est solutions un petit peu faites maison. Et en troisième position, il y avait Docker Swarm, donc cette année, en termes d'orchestrateur. On continue un petit peu plus loin, on va trouver des choses comme Mesos, par exemple. Mesos, DCOS par Mesosphere, qui sont d'autres systèmes d'orchestration, également de conteneurs, mais pas que. Et donc, Swarm, qui est sorti l'an dernier, bah, a commencé un petit peu à percer. Hein. Mais il s'avère qu'il bah, n'a peut-être pas encore fait ses preuves, etc. Et puis, ça reste quand même compliqué à déployer, un cluster Swarm. Même si c'est bien packagé par certains cloud providers, comme on peut le faire, par exemple, sur la plateforme Azure. Mais là, en fait, ils ont vraiment ils ont voulu aller plus loin encore. Voilà. Ouais. Donc, ils ont dit, bah, c'est bien orchestré, mais la plupart des gens ne sont pas des experts. Effectivement, tu seras d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de plein de solutions dans tous les sens et les infras sont juste des combinaisons de plein de briques. On n'est pas expert sur toutes les briques. Donc, eux, ils expliquent dans leur session que ben, soit on engage une armée d'experts, soit du coup, on se retrouve un peu bloqué quand on veut faire de l'orchestration. Et ben, leur idée, eux, c'est de justement de ni avoir à engager une armée d'experts, ni être bloqué parce qu'on n'est pas expert. Et donc cette année, je pense qu'on pourrait dire qu'ils ont presque réinventé Docker Swarm.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont inclus en fait, dans le moteur Docker de base. C'est-à-dire que ce n'est plus une option, c'est quelque chose qui est intégré dans le moteur de Docker. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent un Swarm mode, un mode Swarm, qui ne nécessite pas de moteur de base de données externe notamment. Ça c'est super important, qui n'a pas par défaut de single point of failure, donc tout ce qui est disponibilité est géré de façon automatique, on n'a pas à s'en préoccuper.
On est décentralisé là. Avant, on était dans un mode un petit peu centralisé où on avait les Docker, les master swarms qui étaient plus ou moins importants, hein, 1, 5 ou 1, 3 ou 5 par exemple, et qui du coup assuraient la redondance et pilotaient les agents qui eux en fait exécutaient les containers des applications. Aujourd'hui, a priori, on n'a plus ce modèle là de maître et agent. Tout le monde est à la fois maître et agent, si j'ai bien compris.
Oui, en tout cas c'est un modèle un petit peu peer-to-peer, hein, dans l'esprit. Cela dit, il y a quand même des nœuds qui sont identifiés comme manager, mais on s'en préoccupe pas en fait. Et c'est assez pratique. Bon, on vous mettra les pointeurs des articles qui détaillent un petit peu le fonctionnement de tout ça. J'avoue que toutes les technos qui sont impliquées là-dedans ne me sont pas connues comme ça.
Alors, moi, je vais juste détailler un petit peu parce que j'ai deux trois choses qui m'ont titillé. Donc là, on parle de la Docker donc version 1.12. Hein,
1.12, ouais, soit très important. Ouais.
Et donc effectivement, en fait, ils ont expliqué cette évolution de Docker 1.12 en fait avec quatre éléments entre guillemets fondateurs de cette nouvelle orchestration incluse dans le produit. Donc le premier effectivement c'est les swarm mode. Donc l'idée en fait c'est de combiner effectivement les moteurs avec les agents swarm,
ouais.
Et d'être sur un mode de self-organizing, donc d'organisation qui se débrouille toute seule, et de self-healing, c'est-à-dire que le cluster se s'auto-répare entre guillemets quand il y a perte d'un nœud par exemple. Mais même si ce nœud faisait office de master. Donc
tout à fait. Hein. Pour illustrer, si on a 5 nœuds sur lesquels on a dit qu'on voulait exécuter 10 fois le même container, si on supprime un nœud, bah, le container en question sera remonté autant de fois qu'il le faut pour atteindre les 10 sur les autres nœuds. Quoi.
Exactement. Et donc on n'a pas effectivement de notion de data store externe qui était nécessaire jusqu'ici. On n'a plus donc de points de panne unique parce qu'en fait... Comme on l'expliquait, on est sur un mode un peu décentralisé. Donc ça veut dire qu'en décentralisé, effectivement, tu peux perdre un élément, mais le reste va continuer à fonctionner. Et le point super important, c'est que cette topologie, en fait, elle est agnostique de l'infrastructure sous-jacente. Et ça, c'est méga important, parce qu'en fait, du coup, on se dit, bah, oui, mais pour le réseau, comment ils vont faire, par exemple, etc., etc. On va le voir juste après, mais ils ont pensé ça. C'est plutôt assez brillant.
C'est-à-dire qu'il ne faut qu'une connectivité IP entre les deux, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'un des quatre éléments qui définit cette nouvelle orchestration s'appelle le built-in routing mesh. Donc en gros, un routage en mesh, je ne sais pas comment le traduire, mesh.
C'est un réseau maillé, c'est des
mailles. Un réseau maillé pour le routage. Mm. Et donc en gros, il y a, d'après ce que j'en ai compris, en fait, on va avoir une sorte de enfin, on a c'est un SDN en fait, qui va en fait faire du réseau sur le réseau. Donc ils appellent ça du Swarm Wide Overlay Networking, donc en gros probablement de l'encapsulation qui fait que tous les nœuds en fait vont pouvoir se parler et on va faire du réseau sur le réseau. Avec un système natif de load balancing, donc en fait si tu rajoutes des nœuds, bah, ça va, ton cluster va grossir, mais ça ne change rien que quand tu as des clients qui vont se connecter à l'application, ils vont se connecter probablement avec un nom DNS qui devra être résolu dans une adresse IP XY ou Z. Donc en fait ils intègrent en fait un système de load balancing pour le networking dans Docker Swarm qui va en fait fonctionner simplement sur la base du round robin. Donc tu connais le round robin, c'est un vieux classique. T'as une liste de, bah là dans l'occurrence sera une liste de nœuds ou de mailles. Et première requête va à la première, deuxième va à la deuxième, troisième à la troisième, quatrième à la quatrième. Et après en fonction de la taille, ta liste va tourner. Quand tu arrives à la fin, tu remontes sur le premier, etc. Donc voilà. Donc load balancing natif pour les containers. Ça intègre également ce Docker Swarm, donc en version 1.12, un système de discovery automatique pour le DNS. Parce que bah, tu doutes bien qu'effectivement tu rajoutes des éléments et des blocs dans un cluster. Il faut pouvoir à un moment faire de la résolution de nom pour pouvoir y accéder. Donc il y a un système de découverte automatique des services basés sur le DNS. Il n'y a pas de choses à faire en plus pour la partie réseau, il n'y a pas de cluster à maintenir à côté. Si on a des load balancers réseau existants, KMP, F5 ou autre, ça fonctionnera également. Donc on n'est pas obligé de complètement tout changer son infrastructure en termes de load balancing IP, même si on utilise du Swarm nouvelle génération qui intègre déjà des choses. Alors il y a un truc sur le kernel, mais je suis pas certain, donc je vais pas en discuter sur le routage. Ça je l'ai pas compris. Ce sera dans les documentations. Et puis donc là on a vu effectivement les différents modes, le nouveau mode d'organisation du cluster Swarm. On a vu le routage maillé par défaut. Il y a deux autres éléments qui rentrent en œuvre dans l'orchestration Swarm dans Docker 1.12 et probablement ultérieur. On a toute une partie cryptographique en fait. Donc toutes les communications internes Docker vont se faire en TLS et en fait il va y avoir intégré dans la solution en fait une PKI. Alors ils l'ont évalué comme étant une PKI de niveau de classe gouvernementale, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais je pense simplement que ça veut dire qu'ils utilisent les algorithmes défini par les suites BDunist probablement. Donc en gros pas des vieux algorithmes mais des choses un peu mieux placées utilisant probablement les courbes elliptiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a une PKI intégrée dans la solution qui doit être du coup je pense également décentralisée, hein, donc maillée, c'est le principe.
Tout à fait.
Avec un système de rotation des clés. On sait que dans une PKI, normalement, quand on la gère, il faut gérer des fois des changements de certificat, donc changement de clé, etc. Et qu'à tout moment, en fait, avec leur système, ils sont capables de révoquer des nœuds s'il y a un problème sur un nœud.
Donc voilà. Il y a de l'authentification systématiquement.
Exactement, via certificat, double sens, je pense, géré automatiquement par la PKI. Mmh. Dernier élément, il y a tout un ensemble d'API pour ces services Docker.
La Docker Service API, oui.
Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Pas mal de choses. Ça permet de faire de la montée en charge. Ça permet de remettre en état, par rapport à un état désiré, un nœud. S'il y a eu une déviance sur la configuration. Donc là, ça rappellera peut-être à certains des choses comme Desired State Configuration ou simplement des outils de Configuration Manager comme Chef, Puppet ou autre. Intéressant, on a le Rolling Update qui permet effectivement de faire des mises à jour.
Ça, c'est super intéressant. Ouais.
Des mises à jour entre guillemets, j'ai l'air smooth, mais facile à faire sans tout arrêter. Alors, je crois que c'était une démonstration sur la dernière keynote. Tu peux peut-être nous l'expliquer, Pascal, ouais, si finalement elle explique bien le truc.
Ah, c'était dans la première keynote. Non,
c'est la première
où ils ont fait la démo de l'ensemble de l'API service. Quoi. C'est des commandes supplémentaires simplement. Hein. C'est Docker Service, Docker Swarm pour initialiser le Swarm, Docker Swarm init sur la première, Docker Swarm join sur les suivantes, etc.
Ouais.
Docker Node, etc. pour gérer les nœuds, pour voilà. Et Docker Service pour installer, gérer, surveiller, scaler, etc., tous nos services qu'on va installer dans le swarm en question, dans le cluster en question. Donc on va commencer par exemple par un Docker service create pour créer un service. Créer un service, c'est quoi? Ben, ça va être une image qu'on va instancier en tant d'exemplaires sur un container.
Image container, voilà.
Voilà, avec tel port qu'on va publier sur le fameux routing mesh, par exemple. On va pouvoir gérer, donc démarrer nos services de cette façon-là. Et puis automatiquement, quand les nœuds vont démarrer, redémarrer, etc., les clusters vont être toujours disponibles. C'est ce fameux self-healing. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, il y a une commande Docker service scale. Le nom de l'image, le nom du service, pardon, égal N. Voilà, égal 10 si j'en veux 10, égal 12 si j'en veux 12, etc. On peut descendre aussi également. Et puis c'est le swarm qui va décider où est-ce qu'ils vont mettre les instances. Donc ça c'est automatique. Et puis donc, comme tu le disais, donc le fameux rolling upgrade qu'il appelle aussi le livestock update. c'est assez marrant, c'est le bétail. Donc Docker service update, le nom du service et la nouvelle image, moins image, machin. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, si on a une nouvelle version du container, eh ben automatiquement, pour faire la mise à jour, donc au bout de notre chaîne de continuous delivery, machin, on va mettre simplement une commande Docker service update, le service et la nouvelle image qu'on a générée. Et ça va faire le rolling upgrade, c'est-à-dire que ça va mettre à jour les containers un par un, ça va les remplacer un par un sans interruption de service. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours qui seront en ligne.
C'est, enfin, honnêtement, la simplicité de tout ça, et ça va bien avec ce que disait Solomon Hikes. Hein, c'est vraiment les best tools pour et rendre quelque chose de puissant extrêmement simple, parce que par une ligne de commande, en fait, tu fais ta rotation de changement de version, ce qui est super impressionnant. Voilà, deuxième élément assez impressionnant grâce à ce Docker Service API, c'est la capacité de gérer entre guillemets des pertes de nœuds. Et automatiquement, en fait, de déplacer ou de reprendre les containers qui étaient sur le nœud qui vient de clasher sur un des autres nœuds en fait Docker. Donc, il y a un système effectivement de contrôle de santé des nœuds, et puis la capacité effectivement à rebasculer sur un nouveau nœud. Bah, c'est le principe d'un cluster en général, mais là c'est automatique avec tous les containers qui pourraient tourner sur le nœud qui a été impacté. Ouais.
Je voulais simplement rajouter sur le rolling upgrade qu'il y a des options qui sont fondamentales, c'est qu'on peut régler combien on en met en jour en même temps et tous les combien de secondes on fait une mise à jour. En fait, en gros, à quel rythme on va mettre à jour le cluster, de façon à pouvoir se rendre compte, le cas échéant, de problèmes et de revenir en arrière s'il y a besoin. Quoi. C'est quand même un petit peu important.
Bon, bref, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt cool. Hein, c'est plutôt cool Docker.
Oui, et puis
1.12.
Et puis Docker 1.12. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il est disponible. Vous pouvez le tester. Donc, il est disponible en bêta ou en RC, je ne sais plus, dans Docker for Mac et dans Docker for Windows.
Exactement.
Donc là, on peut le tester aujourd'hui. Donc je l'ai testé personnellement hier soir avec toutes ces commandes de
Docker Swarm init, Docker service create, etc.
Exactement. Je l'ai fait sur un seul nœud, mais comme j'ai un deuxième Mac, je vais pouvoir le faire également pour simuler, pour avoir vraiment un cluster plusieurs nœuds.
Voilà. On va dire qu'ils ont fait un gros pas en avant avec ces choses-là. Mm. Alors, c'est vrai que quand on utilisait des choses comme Azure, par exemple, on avait dans ce qu'on appelle Azure Container Service, déjà des modèles prêts à l'emploi qui permettaient, en remplissant quelques informations, en fait, d'instancier facilement un cluster Swarm, également un cluster Mesos ou des COS. Là, on va dire que, à la limite, dans cet exemple-là, on pourrait presque pas avoir besoin, entre guillemets, d'assistant tel que celui-ci, mais on verra, il y a autre chose qui va arriver justement. On va passer à la troisième partie de cette session keynote, qui était pour les ops.
Troisième chapitre dans cette première keynote de la DockerCon, donc Stanislas, concernant les ops expériences, donc nos amis les IT, qui s'appellent deux ops voilà. Maintenant.
Voilà, donc, c'est le nouveau nom des ops, les IT.
Donc, il y a trois choses qui ont été annoncées, donc Docker for AWS, Docker for Azure et un nouveau format de distribution d'applications containerisées, le format DAB, Distributed Application Bundle.
D'accord. On va commencer par la partie Docker for AWS et Docker for Azure qui est en bêta. Bêta sur lequel vous pouvez vous inscrire en allant sur beta.docker.com. Et là, vous allez sélectionner si vous voulez tester la bêta d'Azure ou la bêta pour AWS.
AWS, ouais.
On vous demandera dans le formulaire d'inscription un identifiant d'un compte Docker. Donc, c'est le compte que vous utilisez pour vous connecter notamment au Docker Hub. Donc, leur objectif, en fait, avec Docker for AWS et Docker for Azure, c'est exactement de faire ce qu'ils ont fait avec Docker pour Mac et Docker pour Windows. C'est-à-dire, en gros, être capable, de manière la plus facile possible, de déployer, en fait, une plateforme Docker standard pour, en fait, que les équipes puissent rapidement, en fait, mettre des applications et donc les déplacer d'un laptop de développeur ou d'une machine de staging vers un environnement plus de production. Voilà. Donc, avec pas de risque de compatibilité, le principe du container qui embarque le code, ses dépendances, normalement pas ses données. Donc, en gros, ils ont beaucoup travaillé avec AWS et avec Azure pour tenir compte effectivement des spécificités de chacune des plateformes, hein, AWS ou Azure, et pour pouvoir déployer en fait la plateforme Docker en fait sur ces endroits et pour être prêt en gros à utiliser des applications. Voilà. Donc ça utilisera bien entendu les dernières versions de Docker, celles dont on vient de parler, et puis ça s'appuiera effectivement sur l'infrastructure sous-jacente derrière. Donc, pour utiliser du Docker et donc faire que l'expérience soit assez simple pour la partie installation, donc ils ont fait pas mal d'intégrations, donc ils vont utiliser la clé SSH qui est associée à ton compte IaaS. Alors ça, je pense que c'est plus dans le cadre d'AWS qu'à ma connaissance, dans Azure, on n'intègre pas le stockage d'une clé SSH directement à un compte utilisateur Azure, à voir. Ils utilisent également tous les systèmes de provisioning qu'on a dans les plateformes AWS ou sur Azure pour provisionner la partie networking, c'est-à-dire tout ce qui est load balancer, et mettre à jour ces load balancers en fonction des applications qui sont créées et déployées en fait, derrière, donc sur ces plateformes de cloud. Et puis également, dans cette bêta de Docker pour Azure ou AWS, il s'occupe de faire toute la configuration des groupes de sécurité et des virtual networks. Donc là, c'est à peu près les mêmes termes qu'on a des deux côtés. Hein. Dans Azure, ça s'appelle un VNet pour les virtual networks, un VPC chez AWS. Pour les security groups, ça s'appelle les network security groups, les NSG chez Azure, et le nom, je ne m'en rappelle plus, chez AWS. Mais en gros, tout ce paramètre-là va être fait de manière quasiment automatique, sans qu'il y ait rien à faire. Et donc, ça, les Docker pour AWS et Docker pour Azure, en fait, vont démarrer en fait automatiquement une flotte de moteurs Docker en 1.12 avec le swarm mode qui est activé par défaut, donc out of the box. Et donc, de base, en fait, on aura déjà en fait avec Docker pour Azure et Docker pour AWS, en fait, un cluster swarm donc qui va s'organiser tout seul, qui va se réparer tout seul et qui peut éventuellement se distribuer sur plusieurs zones de disponibilité, availability zone. Donc, availability zone chez AWS, c'est en fait différents data centers au sein d'une même région géographique, on va dire. Dans Azure, c'est à peu près pareil. Hein, une région Azure est divisée en plusieurs data centers qu'on ne voit pas, mais on gère des groupes de disponibilité également. Donc c'est à peu près similaire. C'est juste la terminologie qui change légèrement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Donc, pour l'instant, donc, on est sur une bêta effectivement sur laquelle il faut s'inscrire. Et puis, au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles versions, en fait, ils ont pensé effectivement, après la bêta, il y aurait des release candidates et puis des global availability, des releases entre guillemets finalisées. Et donc, pour les mises à jour, en fait, ils vont faire des updates, mais façon rolling update, hein. C'est-à-dire qu'ils vont de manière graduelle, en fait, démarrer des nouveaux node managers. Et doucement, en fait, les mettre dans la gestion du quorum de l'ensemble des managers. Et puis ensuite, ils vont faire du drain, c'est-à-dire ils vont vider en fait les containers exécutés sur des vieilles instances de Docker pour les déplacer vers les moteurs Docker qui, eux, sont en nouvelle version. Et puis quand on aura une machine avec un moteur Docker ancienne génération qui n'a plus aucun container, et bien elle sera supprimée, tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt simple et plutôt cool comme approche. Donc on est, je le répète, sur une bêta privée aujourd'hui. Et puis il n'y a pas de coût supplémentaire à utiliser ces bêtas. À part les coûts effectivement liés à bah, la consommation de ressources sur AWS ou sur Azure. Voilà. Là encore, tu mettras les liens, Pascal, pour oui. avoir plus de détails sur ces deux solutions, donc Docker pour AWS et Docker pour Azure. Il y a un article plutôt pas mal fait qui explique un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les tailles de VM utilisées. Donc, par exemple, quand on est chez AWS, en fait, tu vas pouvoir définir le nombre de managers, le nombre de workers, d'agents qui vont tourner et la taille des instances. Et donc, après, tu peux choisir la taille, unité de micro, par exemple, quand tu es chez AWS ou autre.
Donc, rajoutons également qu'il y avait ce fameux nouveau format de fichier DAB qui simplifie un petit peu le déploiement. Hein. Pendant la démo, on avait le développeur qui faisait son fichier DAB, donc il faisait une commande Docker Compose Bundle pour faire son bundle au format DAB. Uh-huh. Distributed, j'ai dit tout à l'heure,
Distributed Application Bundle.
Application Bundle.
Voilà, donc c'est un format qui est réellement portable pour des applications qui sont multi-containers. Un container tout seul à déplacer, c'est simple, hein. Je veux dire, on donne le container et puis basta. C'est quand on a plusieurs applications que ça devient plus compliqué.
Voilà. Ensuite, donc, le développeur donne son fichier DAB à l'IT, qui va le déployer dans son magnifique cluster dont il était super fier. En l'occurrence, c'était AWS, hein, dans la démo, ça aurait pu être également dans Azure. Et donc, il lui suffit d'aller faire une commande Docker deploy, je ne sais plus quoi, pour aller déployer son application directement, pour la scaler avec N instances supplémentaires quand il en avait besoin, etc. etc. Donc, regardez la vidéo, la démo est super intéressante.
Précisons ici que on est ici sur une fonction qui est expérimentale, c'est-à-dire pas bêta. Ils sont avant la bêta, donc pour l'instant c'est relativement tout neuf. Plus d'infos sur docker.com/dab.
Ouais. Donc voilà pour la première journée et la première keynote de cette première journée de la DockerCon. Deuxième jour donc de cette conférence avec la deuxième keynote, toujours avec Ben Golub, le patron de Docker, qui a orienté cette deuxième keynote donc sur l'entreprise et les besoins de l'entreprise, et notamment il est parti avec la notion de container as a service, et donc la nécessité de packager un petit peu le service autour des containers de façon à offrir vraiment des services d'entreprise au niveau du déploiement, de l'intégration de services sous la forme de marketplace. Voilà. Deux choses donc qui vont axer un petit peu cette présentation. Donc la première, Stan, c'est ce qui s'appelle, c'est un produit qui s'appelle Docker Data Center.
Ouais. Donc Docker Data Center, il est positionné par Docker comme étant une solution pour avoir son propre CAS, donc Container as a Service. Donc ça peut être sur site, mais ça peut être également sur une plateforme de IaaS externe, hein, Azure par exemple, ou AWS. Donc en fait, Docker Data Center, qu'ils appellent également DCC, l'idée donc c'est de pouvoir en fait faciliter le déploiement d'un service complet de Container as a Service. Donc soit sur site, soit effectivement dans un cloud, dans une partie de ton cloud entre guillemets qui peut être externalisée également. Donc ça va fournir en fait aux IT en fait tout un environnement et toute une infrastructure qui soit manageable, sur lequel on peut donc gérer et sécuriser les applications, et sur lesquels les développeurs peuvent construire et déployer des applications dans une optique libre service. Hein, on est vraiment dans une optique très cloud. C'est-à-dire effectivement fournir de la ressource à des gens qui vont la consommer sans forcément appeler après l'IT, etc. Donc ça s'appuie bien sûr sur une partie de ce qu'a fait Docker en termes de logiciel, et en gros c'est une sorte de super intégration avec différentes grandes briques.
C'est vrai qu'il a situé le CAS, le Container as a Service, comme étant un intermédiaire entre le IaaS et le PaaS. Donc effectivement
ce qui me va, ouais. Je trouve c'est bien parce qu'en fait on a la simplicité de déploiement du PaaS sur des containers, dans le sens où on ne se pose pas trop de questions de ce qu'il y a en dessous, parce qu'on embarque les dépendances, etc. Et puis, on a la liberté d'évolution et de déplacement des ressources d'un IAS. Donc, je trouve ça plutôt pas mal comme approche. Donc, les gens de Docker, en fait, ont intégré donc, différents bouts de leur projet open source et de leur solution commerciale, parce qu'ils vendent également des choses, hein, quand même, ils vivent, ces gens-là. Et donc, en fait, ils les ont intégrés, ils les ont validés dans certaines configurations et ils les supportent. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une optique, cette fois-ci, entreprise, où, effectivement, derrière, il faut que ça marche et puis il faut qu'ils puissent y avoir de la outline, du support, etc., parce que c'est de la solution d'entreprise. Donc, les briques qu'on va avoir dans ce bundle, dans ce package qui est donc Docker Data Center, c'est ce qu'on appelle, le premier élément s'appelle UCP, dans sa version 1.0, donc UCP c'est l'acronyme de Universal Control Plane, donc ça embarque en fait du Swarm pour la partie, on va dire, gestion intégrée et puis orchestration de l'environnement Docker, donc ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Ça intègre également la TDR, ou la DTR, pardon, pour moi, la Docker Trusted Registry, donc dans sa version 1.4.3. Donc une DTR, c'est donc un dépôt en fait d'images Docker qui est privé, en fait, à la différence du Docker Hub qui lui est un dépôt public hébergé chez un tiers qui est Docker. Donc une DTR, on peut effectivement la stocker sur site ou dans une partie de son infrastructure de service public, mais c'est dédié vraiment au monde de l'entreprise avec donc la gestion des images Docker, la gestion de leur sécurité également, puis tout ce qui est la partie entre guillemets travail collaboratif qu'on peut avoir dans ces environnements très DevOps. Et puis sur le moteur de container en tant que tel, le moteur de container qui sera utilisé ici, c'est le Docker, le moteur Docker Engine 1.10. Voilà.
D'accord.
Donc pour résumer, donc là je t'ai donné les grandes briques, hein, donc la grosse brique de management qui est donc Universal Control Plane, UCP. Donc on a une brique de sécurité sur laquelle on va avoir du airbag, de l'interconnexion avec des annuaires LDAP ou de l'AD, on pourra après faire du single sign-on notamment. L'orchestration, elle est assurée par Swarm, le moteur de container on le connaît, et puis on a cette TDR à côté. Autour de tout ça, en fait, après, tu vas pouvoir greffer quasiment tout ce que tu utilises nativement dans une infrastructure, c'est-à-dire que de manière sous-jacente, il va y avoir effectivement une infrastructure avec des systèmes d'exploitation, probablement Unix, et une infrastructure qui sera soit sur un cloud public, soit de la virtualisation, ou soit une infrastructure avec des serveurs en physique ou une infrastructure convergée, ça c'est possible. À côté de ce Docker Data Center, on aura ce qui existe déjà dans les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est boîte à outils, tout ce qui est solution de gestion du code, Visual Studio ou autre, un endroit où tu peux stocker effectivement tout ton code, tout simplement. Et puis à côté de ça on a toujours en parallèle des outils de monitoring, des outils de log, etc. On en donnera quelques exemples tout à l'heure avec ce qu'a montré Marc Rusinovich. Voilà, donc l'idée qu'ils ont derrière, c'est de faire en sorte que ce Docker Data Center soit très très simple à installer, avec pas des tonnes de manipulations. Ils sont toujours dans cette optique effectivement de faciliter l'usage de leur solution et de faciliter en gros la mise en place d'un hébergement de containers et qui soit utilisable par tout le monde. Donc comme je l'ai dit, on est basé sur Swarm, donc on va utiliser les fonctionnalités de networking de Swarm, la sécurité dont on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus. Juste effectivement à retenir, c'est que la solution s'intégrera dans un existant d'entreprise telle que Native Directory ou des serveurs LDAP, pour ne pas avoir créé des bases de comptes ou de groupes pour les utilisateurs de la solution, avec la possibilité, ça ils l'ont fait en démonstration, c'était pas impressionnant, mais ils l'ont montré, qu'effectivement il y a un airbag, donc on peut créer des permissions et des rôles en fonction des profils, et dire par exemple, c'est l'exemple que tout le monde utilise, mais nous on l'utilise avant eux, de prendre le manager et d'avoir un compte qui est en lecture seule, donc il ne peut pas faire de dégâts sur la plateforme.
Voilà.
Voilà.
Donc il y a un portail, le UCP c'est également un portail d'administration qui est très très avancé. Et puis
exactement.
Et puis ils ont parlé également d'un Docker Store.
Exactement. Alors ça, le Docker Store, on sort de cette partie effectivement qui était vraiment très dédiée à l'entreprise. le Docker Store pourrait être utilisé, je pense, par tout le monde. Est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu, le concept ?
Le détailler, pas vraiment. Le principe, c'est un marketplace où on pourra acquérir des services containerisés, des applications containerisées sous une forme packagée et avec la confiance qu'on peut avoir dans des fournisseurs connus et qui ont signé leur production, etc. etc. quoi. Un peu comme le principe du Azure Marketplace qu'on connaît chez nous, ou d'autres stores qu'on peut connaître dans d'autres contextes. Donc aujourd'hui, c'est en bêta également. Si on va sur store.docker.com, on peut donc demander à participer à la bêta.
Donc là, c'est pareil, c'est un store, donc je pense que ils ont une vraie place à jouer, entre guillemets, dans l'écosystème des applications et des ISV. Mmh. Un store, on en a un, nous, par exemple, dans Microsoft Azure, où effectivement, on a des applications qui sont prêtes à l'emploi, où effectivement, on dit, je veux telle application, et elle est packagée, soit sous la forme d'une machine virtuelle, soit sous la forme d'un service de pass un peu packagé. Eux, en fait, ils amènent ça, mais sur la partie container, ce qui est assez intelligent également. Ça veut dire que, du coup, des ISV peuvent doucement basculer sur un mode de vente de leur solution à base de containers, ce qui, du coup, est parfait, parce que le container peut être instancié absolument n'importe où, hein, sur une infrastructure privée ou sur une infrastructure publique. Et puis, du coup, ça fait sens parce que tous les outils d'intégration et pour en fait mettre à disposition des clients des nouvelles versions, ça sera beaucoup plus simple également. On sera plus sur l'ISV qui fait un gros produit et puis qu'après, qui doit bien le packager, et le signer, machin, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Exactement. Et donc ensuite, après avoir présenté donc le principe du produit Data Center, il y a eu quelques mots sur des partenariats, notamment un premier partenariat conclu par Docker avec la société HP Enterprise. Uh-huh. Donc sur la fourniture de matériel, donc là de serveurs HP embarquant les solutions Docker globalement. Et puis un deuxième partenariat donc très fort évidemment avec Microsoft. Et à l'occasion de l'annonce, à l'occasion de ce partenariat, il a invité sur scène Marc Russinovitch, qui est venu donc faire une démo de Docker Data Center dans le Azure Marketplace, puisque ça y est, Docker Data Center est disponible dans le Azure Marketplace. Mm-hmm. Par contre, pour l'utiliser, il faut une licence. Pour nous, simple mortel, il va falloir s'inscrire dans la bêta pour récupérer une clé de licence. De type trial, d'évaluation de Azure Data Center pour pouvoir le tester.
Mais oui, donc en gros, on a tout ce qu'il faut pour le déployer, mais il faut une clé. Maintenant, c'est une société jeune, sympa, etc., mais il faut qu'ils fassent de l'argent aussi. Donc,
exactement.
Donc, ils en viennent au bon vieux système des licences.
Hein, et voilà, et puis des versions d'éval et des licences. Et donc Marc Russinovitch a montré comment on pouvait déployer donc un Docker Data Center, une infra Docker Data Center directement depuis le store, depuis le marketplace Azure. Donc tu l'as également testé.
Oui, je l'ai fait. Donc en fait, il suffit d'aller dans marketplace, de taper Docker Data Center. Là, vous verrez qu'il y a une ligne qui s'appelle Docker Data Center dont l'éditeur est Docker. Et donc, immédiatement, le fait de lancer la création de ce modèle, je pense que c'est basé par rapport au modèle ARM,
tout à fait,
va en fait déployer donc le Docker Universal Control Plane, une Docker DTR, donc une Trusted Registry, les moteurs Docker et les applications, le tout qui vont tourner sur Azure. Donc là, on aura du CAS sur le IaaS, hein, on peut le dire. Voilà,
exactement.
C'est dit. Et donc, les informations à donner sont relativement simples. Ça rappellera, pour ceux qui ont déjà testé, de déployer un cluster Mesos ou un cluster Swarm depuis Azure Container Service. C'est très, 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 très similaire. Donc, on vous demande un nom d'administrateur pour ce Docker Data Center, une clé SSH, quel abonnement Azure vous voulez utiliser, créer ou pas un groupe de ressources ou utiliser un groupe de ressources existant, dans quel data center ou dans quelle région Azure vous souhaitez le déployer. Et ensuite, on va vous demander un nom de préfixe pour les machines du cluster, UCP. Et puis la taille de ces machines, donc de base c'est des DS2 V2, donc 3 machines en standard DS2 V2. Donc vous choisissez en fait le nombre de contrôleurs UCP, d'accord, le nombre de nodes UCP, hein. Et ensuite, on choisit le nombre de nodes qui vont tourner. Donc là, ce sera les nodes là où seront exécutés, entre guillemets, le workload. Donc, le nombre de contrôleurs, le nombre de nodes pour le workload. Là encore, on choisit donc le nombre et la taille des machines virtuelles qu'on veut mettre derrière. Ensuite, on vous demande combien vous voulez mettre de Docker Trusted Registry. Donc en gros, tu vois, les trois grosses briques, en fait, chaque fois, on choisit le nombre et la taille des machines virtuelles. Et puis, il y a quelques informations qui sont demandées sur le réseau. Donc automatiquement, il va créer un réseau qui s'appelle UCP VNet. Et donc, vous allez configurer au sein du CP VNet, en fait, il y aura au moins deux subnets différents. C'est qu'un VNet dans Azure peut être subdivisé. Donc, en l'occurrence, ici, on va avoir deux subnets qui seront utilisés. Un premier subnet sera dédié, en fait, au contrôleur. Et un second subnet, en fait, sera dédié aux nœuds Docker, entre guillemets, qui vont faire tourner les containers. Et ce subnet sera également utilisé, en fait, par les machines qui feront les Docker Trusted Registry. Voilà. Dernière chose, on demande un nom DNS qui correspondra en fait à l'adresse IP publique utilisée par Load Balancer. Donc ça donnera un nom genre je sais pas, mon cluster Docker Data Center .westeurope.cloudapp.azure.com par exemple. Et puis on va également nommer l'adresse IP. Pour les nœuds qui seront eux load balancés, donc on a l'adresse IP pour le cluster et l'adresse IP pour les vraiment la partie agents qui vont faire tourner les workloads. Et ça c'est pareil, on va choisir un nom qui sera également unique. Qu'est-ce qu'il reste après à donner comme information? Ah bah oui, là il faut donner le mot de passe de l'administrateur, hein, tu vas utiliser pour faire tout ça. Oui. en plus de la clé SSH, c'est-à-dire que là tu dois quand même saisir un compte d'admin de Universal Control Plane, un mot de passe, et puis c'est là où tu dois uploader, télécharger ta clé de licence Docker, Data Center. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, on te dit ça va coûter cher. Non, on te dit ça va coûter de l'argent, c'est normal, hein, c'est les ressources Azure. Ouais. Et puis tu envoies, et le provisioning dure entre 15 et 19 minutes, d'après ce que j'ai compris, quand on prend entre guillemets, les configurations de base, c'est-à-dire. Trois nœuds chaque fois avec des machines en DV2.
Et ben on le testera dès que possible. Donc la démo de Marc Rusinovitch a consisté à nous montrer ce qu'il y avait effectivement dans la console UCP pour le cluster qui se trouvait dans Azure. Il a montré également la Docker Trusted Registry avec ses images de containers à l'intérieur. Et puis il est parti sur une application donc, qui tournait sur son cluster. Une application web avec du Node.js mais également du C#, et il est parti depuis son Mac, puisqu'il a fait la démonstration depuis un Mac avec Visual Studio Code, donc l'éditeur de code simple édité par Microsoft qui s'exécute sur Mac, a modifié le code C# de l'application. Non seulement elle éditait, mais elle débuguait, c'est-à-dire qu'on peut grâce à l'intégration qui est faite de Visual Studio Code avec Docker for Mac, on peut débugger, donc mettre des points d'arrêt, arrêter le code, etc., du code qui s'exécute dans un container sur le Mac, dans Docker for Mac. À partir de ça, donc, il corrige son bug, il corrige son application, il sauvegarde, il push, enfin, il publie ses modifs, etc. Et donc, ça va pousser le code, la modif, dans le pipeline. Alors dans le jargon DevOps, on appelle ça le pipeline CI/CD, n'est-ce pas, le Continuous Integration, Continuous Delivery, c'est-à-dire la chaîne de build qui se trouve dans VSTS. Donc il a profité pour montrer Visual Studio Team Services, VSTS, la fonctionnalité de build, la possibilité donc de définir des workflows de build, de construction, avec toutes les étapes, dont certaines étapes consistent donc à aller mettre à jour, créer une nouvelle image de container et la publier dans le Docker Trusted Registry. Et au final, de façon automatique, l'application va être mise à jour sur le cluster grâce à cette chaîne de build de VSTS. Au final, il a montré également que, hop, surprise, il a levé un voile sur une machine qui se trouvait sur scène à côté de lui, et qui était en fait un nœud du cluster Docker Data Center, et qui était en fait une machine Azure Stack, qu'il avait ici sur scène, donc montrant qu'en plus le côté montant en plus le côté hybride de la chose du cluster en question.
Rappelons que nous avons un podcast sur Azure Stack qui décrivait un petit peu ce qu'il y a dedans, ouais. Ceux qui veulent aller plus loin.
Et on en dira plus d'ici quelques mois. Monitoring des containers, donc oui, effectivement, il a montré comment OMS, donc Operations, donc comment OMS
Operation Management Suite, hein. Voilà. Donc, qui est en fait un bundle qui intègre à l'intérieur un bloc qui s'appelle Azure Logs Analytics. Et effectivement, dans Azure Logs Analytics, on a ce qu'on appelle des Intelligence Packs, qui permettent de traiter des données collectées sur différents environnements. Donc, ça peut être des machines Windows, des machines Linux, mais également, très prochainement, on a en preview, des containers Docker. Donc, être capable de remonter l'information provenant des containers Docker, la collecter dans notre cloud public, de la mouliner, d'en ressortir quelque chose d'intelligible.
Voilà, donc c'est ce qu'il a montré. Et puis, il en a profité parce qu'il ne pouvait pas rester comme ça sans montrer d'autres choses intéressantes. Donc, il a montré que la base de données qui servait à l'application, et ben en fait, c'était un SQL serveur qui s'exécutait sur un Ubuntu dans un container. Donc, c'est la première fois qu'on voit s'exécuter SQL serveur sur Linux et en plus dans un container Docker. Donc, ce qui me faisait dire, ce qui me faisait penser tout à l'heure quand tu parlais du Docker Store, que ça serait un canal de vente approprié peut-être pour ce fameux SQL Server sur Ubuntu.
Ce serait même complètement approprié, Pascal.
Et voilà, ça concluait avec un témoignage. Bon, on n'a pas parlé de tous les témoignages clients qui étaient fort intéressants également. Regardez les vidéos pour aller voir les témoignages clients, notamment celui à la fin sur ADP, un fournisseur de services de paye et de RH, etc., qui était intéressant. Comme les autres. Et puis voilà, ça a conclu en fait la deuxième keynote. La troisième, juste pour dire deux mots sur la troisième keynote, qui était en fait une suite de démonstrations. Il y avait une démonstration assez originale pour illustrer le fait qu'ils arrivaient maintenant à mettre à jour un container. Donc c'est super important en fait, c'est quelque chose qui est critique depuis le début, ça, le fait de remplacer un container par sa nouvelle version. Puisqu'on ne met pas à jour le container, en fait, on le remplace par une nouvelle version, sans interruption de service. Donc, comment on fait ? En fait, on installe le nouveau, on démarre le nouveau, et c'est qu'après qu'on supprime l'ancien, de façon à minimiser le temps d'indisponibilité. Et on bascule les ressources, donc le disque, etc., sur le nouveau container sans indisponibilité. Et pour illustrer ça, en fait, il volait un drone à quelques mètres au-dessus de la scène. De la scène, hein, pas du public, parce qu'il voulait quand même pas, faut pas déconner quand même. Et le drone était piloté par un container qui tournait sur un Raspberry Pi dans le drone. Et donc voilà, ils ont mis à jour en live le container qui s'exécutait dans le drone et qui le pilotait. Et le drone n'est pas tombé, donc ce qui illustrait la continuité de service du container sur le drone, ce qui est plutôt original comme démonstration.
Voilà. Oui, c'est très geek, mais c'est sympa.
Voilà, c'est sympa. Eh ben, écoute, Stanislas, on a bien décortiqué ces keynotes de Docker.
Ouais, c'était cool. C'était vraiment, c'est pour une boîte qui a 3 ans, c'est juste impressionnant. Ne serait-ce que l'écosystème qu'ils ont bâti autour et la vitesse et la simplification qu'ils font dans l'usage de leurs solutions. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est du bon, comme on dit, par chez nous.
Donc, on attend avec impatience de pouvoir intégrer, de faire des clusters mixtes avec du Linux et du Windows, évidemment, avec ce qui va arriver dans Windows Server 2016, Nano Server, etc. Pour raconter un petit peu plus dans les mois qui viennent. Stanislas, merci beaucoup.
Merci, Pascal.
Bon, très bon week-end.
Eh bien, pareil, on espère qu'il sera ensoleillé. On espère que vous avez passé un bon moment sur cet épisode ITcast.
Voilà, merci à tous et puis à très bientôt, dans 2 semaines. Au revoir.